France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023, on assiste à la destruction de ce territoire plurimillénaire qui recèle ou recelait de trésors archéologiques, de sites antiques et historiques. Mais une partie de ce patrimoine a été sauvée ou va être sauvée. C'est le sujet d'une nouvelle exposition à voir jusqu'au 2 novembre à l'Institut du Monde Arabe à Paris, intitulée « Trésors sauvés de Gaza, 5000 ans d'histoire ». Alors comment ce patrimoine peut-il encore être sauvé? Comment peut-il être encore transmis? Une reconstruction est-elle encore possible? Pour en discuter, un invité ce soir, René Elter, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes archéologue, chercheur associé à l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Vous êtes coordinateur scientifique du programme intitulé INTICAL pour l'ONG Première Urgence Internationale. Et vous êtes l'auteur notamment de cet ouvrage intitulé Gaza, comment transmettre le patrimoine? C'est aux éditions Rive-Neuve. Merci d'être avec nous ce soir à Question du Soir.
Ceci est le plus vieux site dans le nord de Gaza. Regardez ce que sont devenus ces endroits dans ma ville. Tous les jours des bombardements. Tu reviens ici et tu vois que tout est par terre, tout est détruit. Tous les lieux archéologiques comme le Hammam al-Samara ou le Souk al-Dahab, tout a été détruit.
La valeur historique du bâtiment a été perdue. L'occupation a fait cela volontairement afin d'effacer l'histoire et aussi la géographie. Après cela, il sera très difficile de rénover ou de reconstruire.
Un extrait du documentaire Arte intitulé « À Gaza, le patrimoine au cœur du conflit » encore disponible sur arte.tv. Je vais simplement rappeler, René Elter, quelques chiffres. Depuis la rupture du cessez-le-feu en mars dernier, les bombardements israéliens sur Gaza ont fait plus de 2150 morts et 5500 blessés. Est-ce indécent de parler de pierres, de patrimoine face à ces morts?
Non. Non, parce qu'en fait, le patrimoine fait partie de l'être humain, c'est ce qui le structure et c'est ce qui le permet d'être accroché, d'avoir des racines et d'avoir une histoire. Ce qui est important aussi pour les Palestiniens, c'est d'avoir une histoire et de pouvoir la montrer. Donc non, c'est absolument pas indécent.
Vous n'opposez pas la chair à la pierre?
Non, et après la pierre, pour faire vivre la pierre, il faut de la chair. Donc, mon programme avant tout, c'est de sauver mon équipe. Et dans un deuxième temps, on sauvera le patrimoine.
On va venir justement à votre équipe. Un mot sur le patrimoine pour commencer. D'après un inventaire établi par l'UNESCO, depuis la guerre à la date du 17 février 2025, 10 mosquées sur 15 ont été détruites à Gaza, une église sur 3, l'unique forteresse a été bombardée, 7 sites archéologiques sur 82, 5 monuments sur 5, le seul musée a été détruit, le souk, le palais, le hammam et 44 bâtiments historiques sur 230. L'UNESCO se base sur des images satellitaires. Quel constat, quelle analyse faites-vous vous-même de l'ampleur de ces destructions patrimoniales?
Alors, les destructions sont très importantes en fait sur le centre historique de la ville de Gaza, pour la simple raison qu'il y a une densité de bâtiments, une densité d'installations historiques. Et à partir du moment où vous avez un bombardement, effectivement, ce patrimoine va disparaître. Les destructions en fait massives sont essentiellement là, à Gaza, dans le centre-ville de Khan Younis. Vous l'évoquiez sur plusieurs bâtiments majeurs. Hein. L'idée aussi, c'est à un moment donné de changer l'image aussi de ce centre historique. Il faut savoir que la municipalité de Gaza, depuis plusieurs années, avait mis en œuvre plusieurs programmes justement d'embellissement de ce patrimoine.
Vous expliquez bien que le patrimoine de Gaza était en danger déjà avant le début de cette guerre, déjà avant octobre 2023. Qu'est-ce qui le menaçait? Le conflit, on l'imagine bien, mais vous pointez bien d'autres choses. Et notamment, j'allais dire, le volontarisme en matière de construction.
En fait, la situation géopolitique et le conflit sont à l'origine justement de ces destructions. À un moment donné, il fallait lutter en fait contre le manque de logement. Il faut se rappeler que toute partie de la population qui avait perdu en fait son logement en 2014 ne l'avait pas encore retrouvé. Donc il y avait depuis quelques années un grand élan de construction. Et bien évidemment, Gaza, qui est une terre riche en histoire, riche en patrimoine, riche en vestiges archéologiques, perdait tous les jours en fait une partie de cette histoire.
Je voudrais que vous nous racontiez, que vous nous décriviez un certain de ces morceaux patrimoniaux, de ces monuments qui ont été détruits, justement pour nous laisser quelques images. La grande mosquée Al-Omari, qu'était cette mosquée? Quand et comment a-t-elle été détruite?
Alors, elle a été détruite à la fin du mois de décembre 2023. Alors, elle est vraiment au centre de Gaza, c'est le cœur de la ville, mais historiquement c'est un lieu important, parce que cette mosquée est installée sur une cathédrale croisée qui elle-même est installée sur une autre mosquée de la période omeyyade, qui elle-même s'est substituée à une grande église byzantine qui elle-même vraisemblablement s'est installée à l'endroit d'un temple païen.
Je voudrais que vous nous parliez également de l'église byzantine de Jabalia. Où se trouvait-elle et comment a-t-elle été, justement, elle aussi, détruite par ces bombardements?
Alors, quelques précisions. L'église de Jabalia n'a pas été détruite. Elle a été endommagée. Quand on parle de destruction, c'est effectivement la mosquée Al-Omari a été balayée par les bombardements, au même titre que le Hammam Samra ou que le musée Al-Pacha, hein, le palais du Pacha. Vous parliez tout à l'heure du palais, c'est le palais du Pacha qui était le musée archéologique de Gaza. L'église de Jabalia, en fait, a été protégée jusqu'en janvier dernier. Pour l'instant, on n'a pas tout à fait encore toutes les informations sur la destruction du bâtiment qui la protégeait. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'hôpital qui la jouxtait, a totalement été pulvérisé. Et la violence, en fait, et l'impact de l'engin a soufflé, en fait, le bâtiment de protection, le bâtiment qui protégeait, en fait, ces 500 mètres carrés de pavement de mosaïque qui dataient entre le 5e et le 8e siècle, donc un élément important de l'histoire de Gaza. Et aujourd'hui, en fait, on a une carcasse légèrement inclinée, hein, ce qui nous donne quand même la puissance, en fait, et la violence, en fait, de cette explosion. Il faut savoir que les fondations de ce bâtiment qu'on a construit en 2019 grâce à un fonds britannique était fondé à plus de 15 mètres de profondeur. Donc ça donne l'idée en fait de la volonté de détruire, et donc l'hôpital étant pulvérisé, le souffle a éparpillé en fait le bâtiment de protection. Par chance les pavements de mosaïque ont, on l'espère, tous été épargnés. En tout cas, il y aura des impacts, mais d'une manière générale, en fait, le lieu a été conservé, ce qui veut dire qu'on se retrouve avant 2019.
Dans quel état se trouve, René Elter, dernier exemple, l'ancien port grec d'Anthédon? Est-ce que vous le savez?
Alors, Anthédon, dans les dernières informations que je peux avoir, qui me sont communiquées par mes collègues qui sont sur le terrain, le lieu a été bouleversé. Il a été bouleversé, bombardé à plusieurs reprises depuis le 7 octobre. Mais c'est un lieu qui a été très largement atteint depuis 2009, depuis les différentes opérations militaires menées par l'armée israélienne. Donc c'est un lieu qui a été à plusieurs reprises bombardé. Alors après vous dire ce qu'il en reste, je ne sais pas, parce qu'il faudrait fouiller pour savoir. Il faudrait redégager les vestiges. Il est certain qu'une, vraisemblablement, vu les impacts lisibles sur le site, qu'une partie des vestiges ont disparu, mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment.
Je voudrais citer Elodie Bouffard, la commissaire de l'exposition de l'Institut du Monde Arabe, et elle écrit « L'archéologie à Gaza a commencé par un accident heureux. En 1879, dans la Palestine ottomane, un paysan surpris autant qu'émerveillé découvrait au sommet d'une colline de sable à Nusayrat un grand marbre majestueux, une statue de Zeus trônant, aujourd'hui conservée au musée archéologique d'Istanbul. Mais en cette fin du 19e siècle, dans l'archéologie biblique pré-1914, la région de Gaza ne séduit pas. » Fin de citation. Comment expliquer justement que cet espace-là, ce territoire de Gaza, ne soit pas associé dans la pensée, dans l'imaginaire occidental notamment, à un vaste champ archéologique ?
Parce que les préoccupations sont autres. Il y a cette compétition autour de très belles découvertes en Égypte. Hein, on va dire la communauté internationale va se focaliser sur d'une part sur l'Égypte, et après la communauté internationale, ou plutôt en parallèle, va plutôt se focaliser sur la Terre Sainte. Ça veut dire la redécouverte des lieux saints. Et Gaza est entre les deux, entre l'Égypte et puis et la Terre Sainte. Et encore aujourd'hui et à toutes les époques, Gaza a été en fait ce lieu tampon entre deux mondes. Et c'est entre autres pour cela que qu'en fait il n'y a pas eu cet intérêt. Et ensuite les vestiges ne sont pas comparables à ce qui a pu être mis au jour en Égypte. Ils sont très importants pour l'histoire de l'humanité, mais dans l'imaginaire et dans la volonté de résultat d'un archéologue du 19e siècle ou des débuts du 20e siècle, on est sur tout autre chose. On va dire les Britanniques ont fouillé les lieux à proximité du lieu où a été trouvée justement cette statue de Marnas, dans un endroit très particulier qui s'appelle le Wadi Razeh. En fait, c'est le seul cours d'eau, on peut le considérer comme un fleuve, en fait, qui traverse d'est en ouest la bande de Gaza, qui vient du Negev et qui se jette dans la Méditerranée. Et ce lieu, en fait, est à l'origine en fait de l'histoire de Gaza. Les premières installations, les premiers groupes viennent s'installer autour de ce lieu qui est propice, qui est en même temps un lieu refuge, un port refuge pour les bateaux qui longeaient les côtes et vont s'y installer, on va dire dès le troisième millénaire avant Jésus-Christ, différents groupes qui viennent entre autres d'Égypte. Et pour aller plus loin, en fait, ce Wadi Razeh, pendant très longtemps, est une frontière entre le nord et le sud, et est une frontière entre l'Empire égyptien et l'Empire assyrien.
Est-ce que c'est possible, justement, quand on écoute ce que vous décrivez, l'ampleur à la fois temporelle, hein, des milliers d'années d'histoire, et en même temps un point de rencontre, hein, d'une multitude de cultures, est-ce qu'il est possible de décrire en quelques mots l'archéologie, la qualité des sites que l'on découvre et que l'on trouve à Gaza ? Est-ce qu'il existe, j'allais dire, une patte spécifique à ce territoire ?
C'est un lieu qui va... Oui, c'est un lieu spécifique parce qu'en fait, il regroupe... Alors, il faut s'imaginer un territoire qui est plus vaste que celui d'aujourd'hui. On va dire que les barrières qu'on a aujourd'hui, elles sont totalement arbitraires. Il faut s'imaginer que ce territoire fonctionne aussi avec l'arrière. Hein, Gaza fonctionne avec un arrière-pays qui va l'alimenter, qui va lui aussi lui permettre d'aller... au-delà, aller vers l'est. Hein. Il faut savoir que Gaza est le débouché en fait du commerce de la Nabatène. Ça veut dire que les commerçants qui viennent de Petra, les caravanes qui viennent d'Arabie passent par Gaza et vont déverser en fait toute leur richesse dans le bassin méditerranéen. Et puis vous avez du nord au sud en fait un axe qui s'appelle à la haute antiquité la route d'Horus. Qui s'est transformé dans le temps, qui s'est transformé plus tardivement, qui s'appelait aussi à un moment donné la Via Maris, et qui est un axe de circulation entre le nord et le sud, ça veut dire entre la Syrie et puis l'Égypte. Donc on est vraiment à un carrefour qu'aujourd'hui, en fait, on ne s'imagine pas. Aujourd'hui, on est dans une zone enclavée, mais justement, par ce passage et ce carrefour, ces différentes civilisations ont laissé des traces automatiquement des installations à Gaza. Et donc, c'est ce qui fait justement la richesse de Gaza, sans parler en fait de la côte qui a emmené des navigateurs, des marchands, des populations aussi qui se sont installées tout le long de cette côte. Et la richesse de Gaza, c'est ça. C'est ce melting pot, en fait, entre l'intérieur des terres et l'extérieur, entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud.
Dans ces fouilles, dans ces redécouvertes archéologiques, quel rôle a joué l'école biblique et archéologique, justement, française de Jérusalem ?
Alors, l'école biblique et archéologique française a une tradition dans la région qui remonte à la fin du 19e siècle. Et à la fin du 20e siècle, le département d'archéologie, qui à l'époque était dirigé par Jean-Baptiste Imbert, a mis en place, à la demande du gouvernement français, en fait, une coopération entre la France et la Palestine autour de l'archéologie de Gaza. Donc à partir de là, plusieurs programmes sont mis en place, entre autres sur le lieu dont vous parliez, que vous évoquiez tout à l'heure, donc le port d'Antédon, l'un des deux faubourgs maritimes de Gaza, et plusieurs campagnes vont y être menées jusqu'en 2000, en fait, jusqu'au début de la deuxième intifada. En parallèle, les Palestiniens fouillent l'église de Jabalia, donc le service palestinien des antiquités de Gaza fouille Jabalia, fouille également le site du monastère de Saint-Hilarion. Et puis à partir de 2002, se met en place un autre programme, également soutenu par la France, autour du monastère de Saint-Hilarion, programme dont j'ai la charge à partir de 2001. Et à partir de là, en fait, on va bâtir d'une part un programme scientifique sur ce lieu, le monastère de Saint-Hilarion. Puis à partir de 2007, grâce à un soutien du British Council, puis de la Fondation Alif, puis de l'Agence Française de Développement, on va mettre en place un programme de formation. L'idée, c'est de dans un cadre particulier, qui est l'association en fait d'une ONG, Première Urgence Internationale, et de l'École Biblique Archéologique Française, et la création en fait de cette initiative que l'on a nommée Intikal, et Intikal en arabe veut dire transmission. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir apporter à des jeunes diplômés de Gaza, diplômés en archéologie ou en architecture, en fait, un savoir et leur permettre de devenir un jour des professionnels qui vont gérer justement toute cette histoire et ce patrimoine.
C'est ce que je souhaitais vous demander, René Elter, justement, à quel point les personnes qui vivent à Gaza, les habitants de Gaza, à quel point sont-ils associés à ce travail scientifique, à ces fouilles archéologiques ?
Alors, on va dire depuis 20 ans, on a mené un gros travail de médiation. Ça veut dire que la population a été très sensibilisé et on va dire que statistiquement, vous avez à peu près le même taux de population intéressée par le patrimoine archéologique que vous pouvez avoir ailleurs, voilà, tout simplement.
C'est une constante.
C'est une constante, voilà, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire et d'autres qui sont très intéressés. En tout cas, on a réussi à permettre, en tout cas, à révéler la curiosité des uns et des autres, et du coup aussi le respect des lieux. Je vous donne l'exemple, pardon, du monastère de Saint-Hilarion. Aujourd'hui, ce monastère est totalement intact. Alors, il est intact pour différentes raisons. D'une part, parce qu'il a été inscrit au titre du patrimoine mondial de l'UNESCO à la fin du mois de juillet
2024.
De l'année dernière. D'ailleurs, il est également inscrit sur la liste du patrimoine en péril de l'UNESCO. Et puis, il a été en fait le centre de l'installation d'une série de camps de réfugiés. Ça veut dire que les camps de réfugiés, jusqu'en janvier dernier, se sont installés à la périphérie, mais à aucun moment donné, la communauté s'est installée à l'intérieur. Ça veut dire que pendant 20 ans, on a travaillé avec la communauté, ça veut dire avec les voisins, et au-delà des voisins. Il faut s'imaginer qu'avant le 7 octobre, Saint-Hilarion recevait 1000 visiteurs par mois. et quasiment que des enfants. Donc, ce qui veut dire qu'on a fait un énorme travail de médiation auprès de la population locale. Et donc, le patrimoine était devenu, on va dire, un lieu de réflexion, hein, autour de l'histoire, mais en même temps autour de l'évolution de Gaza.
Vous mentionniez un peu plus tôt dans cette conversation, René Helter, vos équipes. Qui sont-elles, ces équipes? Où sont-elles aujourd'hui? Est-ce qu'elles parviennent à poursuivre bon an mal an leur travail, leur engagement à Gaza, ou cela est devenu totalement, absolument impossible?
Alors depuis la mi-mars, c'est totalement impossible. Voilà, les bombardements ayant repris, voilà, on leur a demandé de...
Parce qu'ils ont repris ou parce qu'ils sont plus forts que jamais?
Ils sont d'une part plus forts que jamais et d'autre part, ils ont repris. Et donc on leur a demandé à tous de rester et de se mettre en sécurité. Mais avant, ça veut dire que jusqu'à la veille du 18 mars... On avait même mis en place déjà des procédures de déminage sur certains sites. Et donc, on était prêt à reprendre justement des activités de protection, de nettoyage, de préservation. Il faut savoir aussi que la problématique de Gaza aujourd'hui, c'est que vous avez des destructions avant, qui sont liées en fait au développement urbain lié à la démographie. Vous avez des destructions ensuite qui sont liées à la guerre. Et avant qu'il y ait un jour de reconstruction, il va y avoir des destructions liées à la crise humanitaire. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont plus rien à Gaza. Ça veut dire que si vous avez un lieu qui est protégé, vous avez un tas de pierres qui est protégé par une toiture, on va être intéressé par les tôles qui sont installées sur cette toiture. Si cette structure est en bois, on va être intéressé de récupérer du bois pour se faire un abri, pour se chauffer. Donc la crise humanitaire, en fait, elle aussi agit sur ce patrimoine. Donc à ce niveau-là, il y a vraiment une urgence de pouvoir faire quelque chose. Alors on a déjà dans les cartons des programmes qui sont soutenus par les Britanniques, par l'Agence française de développement, et qui, j'espère, pourront se mettre en place et se développer dès qu'il y aura une trêve et surtout un cessez-le-feu durable.
Certains partageaient un rêve avant cette guerre, la création d'un musée archéologique à Gaza. Quelle était l'idée, la raison d'être même de ce musée? De quoi aurait-il été habité? De quelles pièces?
Alors, ce musée, il existait, on va dire, en plusieurs endroits. Il existait dans le Pacha, dont on a parlé tout à l'heure, mais il existe aussi dans des collections privées. Et l'exposition qui est à l'Institut du Monde Arabe, c'est un petit peu un résumé de ce musée, parce que vous avez d'une part des collections, il y a des pièces qui proviennent d'une collection privée, celle de Jordan El-Khoudari, et puis vous avez des collections qui proviennent en fait des premières fouilles menées à Gaza entre 1995 et 2000. Et donc dans ce musée, on devait retrouver entre autres ces pièces qui n'ont toujours pas réussi à repartir en Palestine, plus les pièces conservées dans nos différentes réserves archéologiques.
Beaucoup de ces pièces aujourd'hui sont logées, situées à Genève. Pourquoi sont-elles là-bas simplement?
On va dire c'est le fait du hasard. C'est une exposition qui a lieu à l'Institut du Monde Arabe en 2000 avec des pièces qui proviennent en fait des fouilles palestiniennes et françaises entre 1995 et 2000. Et puis ensuite, ces pièces partent à Genève pour une exposition qui a lieu au Musée d'Art et d'Histoire. Et ensuite, vous avez des pièces qui viennent se joindre à ces collections des fouilles de la mission de coopération franco-palestinienne et qui proviennent des collections de Jaouda El-Khoudari. Et ensuite, voilà, elles restent bloquées à Genève, tout simplement.
Qu'est-ce que vous pensez, René Helter, des termes en vogue, termes scientifiques néanmoins, ceux d'urbicide, hein, de destruction méthodique, planifiée de la ville de l'ennemi, et du terme de mémoricide, hein, la destruction planifiée, méthodique de la mémoire de l'ennemi? Est-ce que vous pensez que ces deux concepts-là, urbicide, mémoricide, s'appliquent actuellement à ce que vivent les habitants de Gaza et Gaza dans son ensemble comme territoire?
Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais laisser les spécialistes en parler. Je vais parler de choses beaucoup plus simples. C'est qu'aujourd'hui, en fait, au-delà de la mémoire et du patrimoine, on a besoin de préserver les hommes et on a besoin de préserver cette équipe. Et aujourd'hui, cette équipe qui est composée d'une quarantaine de jeunes, qui à 50% sont des filles et des garçons, c'est en fait les préserver. Et pour moi, en fait, c'est ce monument-là qu'il faut préserver, parce que sans cette âme, en fait, sans leur action, demain, le patrimoine, en fait, ne pourra pas être restauré et ne pourra pas vivre. Donc, avant tout, il faut préserver ces jeunes.
Merci beaucoup René Elter. Je rappelle que jusqu'au 2 novembre à l'Institut du Monde Arabe à Paris se tient cette exposition intitulée « Trésors sauvés de Gaza, 5000 ans d'histoire ».